Diambulation.
Vous avez commencé en fait la présentation en disant qu'on était un pays suffisamment riche pour pouvoir se permettre de réfléchir à un revenu pour tous. Alors qu'est-ce que ça veut dire être assez riche? De quelle richesse est-ce qu'on parle? Est-ce que c'est parce qu'on a colonisé des pays, exploité des tas de continents qu'on est maintenant assez riche pour vivre comme ça? Et du coup, le pendant de ça, c'est est-ce qu'il y aurait des pays pas assez riches pour pouvoir se le permettre?
Voici enfin, après des mois d'attente, le deuxième volet de l'émission sur le revenu garanti. Donc, cette émission est montée à partir de sons qui ont été enregistrés durant une conférence débat qui a eu lieu dans le village du Percy, dans le Trièves, en mai 2014. C'était dans le cadre d'un festival appelé L'Échappée Rebelle. Dans le premier volet, vous avez entendu une présentation générale de qu'est-ce que cette proposition du revenu inconditionnel et de différentes questions que ça peut soulever. Et maintenant, dans cette deuxième partie, nous allons entendre la partie de débat avec le public. Donc les questions des personnes qui étaient dans le public et des réponses des intervenants et intervenantes. Le son de ces prises de parole n'est pas absolument excellent parce qu'il y avait beaucoup d'autres bruits, entre guillemets, parasites durant cette conférence. Mais j'espère que le sujet est suffisamment palpitant pour vous donner quand même plaisir à écouter tout ça et à réussir à écouter cette émission jusqu'au bout.
Tout à fait enregistré que vous vous situez sur une société post-capitaliste, donc pour des lendemains et des surlendemains assez lointains, moi j'ai plus le temps. On a déjà fait beaucoup de choses, on a essayé beaucoup de choses, la génération, bon d'accord, on s'est planté, ok, d'accord. Bon, alors, il nous reste à planter du blé, peut-être, des trèfles, mais du blé. Donc là où je veux vous interpeller, mais c'est peut-être pas du tout votre problème, hein, c'est quand même pour moi les rapports de force qu'on peut établir au niveau financiero-économique, quoi, je veux dire. Là, sur les rapports de moi pour l'instant, je vois pas de solution post-capitaliste à part des petits îlots, c'est sympa, je veux dire, j'en connais. Moi-même, parfois, je pratique des choses un peu luberlu, mais moi, je vois pas comment vous vous situez par rapport à la dominance actuelle financière ou économique et qui vraiment, effectivement, peut vraiment nous enfoncer. Je veux dire, je pense que tant que c'est pas dangereux pour eux, pas de problème. À partir du moment où c'est dangereux pour eux, qu'est-ce qu'on fait? Donc, comment établir ce rapport de force-là ou comment, dans quelle structure? Mais peut-être que vous n'avez pas de réponse. Moi, je me pose la question depuis longtemps.
Oui, bonjour. Moi, je m'étonne un peu que vous n'ayez pas posé une seule fois la question de l'État, en fait, dans les institutions économiques. Vous avez complètement fait abstraction de ce, ce sujet qui est quand même central actuellement comme acteur dans l'économie. Et j'ai du mal à comprendre en quoi le revenu de base va pouvoir subvertir en fait le marché du travail actuel. Comme enfin, par exemple l'exemple des aborigènes qui rachètent, qui petit à petit font de l'épargne et rachètent leurs terres pour pouvoir redevenir propriétaires de leurs terres, ça me dérange un peu parce que ça questionne même pas l'illégitimité en fait de cette propriété et le fait qu'on les ait chassés de ces terres. Voilà, c'était plus deux objections par rapport à ce discours.
La question bête que tout le monde pose toujours, mais je vais bien la poser, c'est où est-ce qu'on prend l'argent ?
Et je la complète avec quel montant envisager, qui va dans la suite logique. Et en plus, une remarque complémentaire de comment on positionne la notion de propriété individuelle. Enfin voilà, on est revenu, enfin, il y a l'exemple des aborigènes, on a parlé du communisme, etc. Donc il y a la question du revenu et puis il y a la question de la propriété qui sont semblent toutes assez liées, propriété et aussi encourager l'initiative individuelle quoi, par rapport à l'initiative collective. Comment on positionne tout ça dans un ensemble cohérent ?
Du coup, sur la première question, on refait aussi. C'est vrai que c'est une question qui revient souvent. Le revenu inconditionnel, ça gênerait sans doute pas mal de monde, à commencer par Bernard Arnault, dont je parlais tout à l'heure. Il y a une domination économique, c'est sûr. Bah alors, en gros, c'est pas parce qu'il y a des gens qui sont contre qu'il faut arrêter de proposer des trucs, dans tous les cas. Du coup, bon, moi, j'ai pas de solution clé en main pour dire on va changer la société demain. Ce que je me dis, c'est que bon, déjà, proposer quelque chose, ça peut permettre de mobiliser sur quelque chose de positif, au lieu juste de dire l'alignation financière économique, on est contre, etc. Donc on peut aussi proposer un autre projet. Et après, on donne la possibilité aux gens de se saisir de la question et de pouvoir questionner eux-mêmes cette domination-là. Mais évidemment, il y aura des gens qui sont contre, et c'est ça aussi le combat politique, quoi. Enfin, c'est enfin, la lutte politique, c'est ça, quoi. La question sur la place de l'État. Alors du coup, je laisserai Simon avec les aborigènes. Alors c'est une question alors que moi je me suis posée tardivement, parce que enfin, moi je suis plutôt venu donc, de la critique de la consommation, critique de la valeur travail. J'intègre cette question de l'État, donc notamment donc, ouais, qui aurait la charge du revenu inconditionnel, parce qu'il y aurait le revenu inconditionnel. Effectivement, si on dit c'est l'État qui gère le revenu inconditionnel, on donne encore un peu plus de pouvoir à un État qu'on voudrait voir reculer un peu. Du coup, j'imagine plutôt un système comparable à la protection sociale initiale, on va dire, sachant que donc un système, alors, je vais pas dire paritaire, mais comment le dire, citoyen, même si c'est un peu fourre-tout. Se dire que donc c'est une institution citoyenne qui doit gérer au moins la distribution, si ce n'est la collecte du revenu inconditionnel. Du coup, sur la collecte, je reviens sur la question du financement juste après. Mais donc, en gros, se dire que c'est pas forcément l'État qui doit gérer tout ça, même ça ne doit pas être l'État qui doit gérer tout ça, mais plutôt qu'on doit s'organiser pour gérer entre nous la solidarité, donc le partage des richesses, partage primaire. Sur le financement et le montant, je commence par le montant. Vous allez vouloir un montant en euros. Donc le suffisant, ça vous a pas suffi tout à l'heure. Il faut avoir le montant suffisant. La question qui se pose en fait, c'est une question qu'on doit régler collectivement. Donc, c'est pour ça que je disais, c'est une question intéressante. Le revenu inconditionnel pose des questions intéressantes avant même sa mise en œuvre. Donc à partir de quand est-ce que c'est suffisant ? Donc moi je suis décroissant. Au départ, je proposais dans mes premiers bouquins, je proposais 600 euros. Et il y a plein de gens qui me sont tombés dessus, ils ont dit c'est pas assez, tout ça. Et les croissants, je dis mais 600 euros, vous pensez pas, c'est déjà beaucoup trop. Là maintenant, je suis monté à 1000 euros après avoir discuté avec des militants, plein de militants de gauche. Je suis à 1000 euros par adulte et 250 euros par mineur. Sachant que voilà, c'est une proposition qui est en débat, qu'il y a des gens qui disent c'est beaucoup trop et des gens qui disent c'est pas assez. Voilà, il faut débattre et ça permet au moins de se dire mais en fait de quoi est-ce qu'on a besoin, à partir de quand est-ce que c'est assez. Mais c'est à débattre. Après, du coup, une fois qu'on a fixé ce montant, on peut avoir à peu près une idée du besoin de financement que ça implique. Donc là, pour moi dans mes calculs, je suis autour de en gros entre 600 et 700 milliards d'euros par, par an. Mais ceci dit, la question du financement semble être un faux problème. En gros, si on pose la question du financement, il y a deux questions, enfin deux hypothèses. Soit on se dit, les gens vont arrêter de travailler une fois qu'on aura mis en place un revenu inconditionnel, du coup on n'aura plus les moyens de financer ce revenu inconditionnel, ça c'est la première hypothèse. Deuxième hypothèse, les gens refuseront de partager. Donc les plus riches refuseront de partager, donc souvent en principe, ce qu'on appelle la courbe de la peur, trop d'impôts tue l'impôt, si on augmente l'impôt des plus sur les plus riches, ben, ils arrêteront de travailler et du coup il n'y aura plus d'activité économique suffisante pour pouvoir financer le revenu inconditionnel. Personnellement, cette histoire de trop d'impôts tue l'impôt, je trouve que c'est une absurdité. Ce qu'on a retrouvé avec le ras-le-bol fiscal qui a été en plus largement relayé par Moscovici. Ça me semble être une aberration, enfin, c'est une question de philosophie sociale. Quoi. En gros, si on se dit que déjà la répartition actuelle des richesses est absolument pas basée sur une quelconque notion de mérite, qu'en plus on peut contredire, enfin on peut contester cette notion de mérite, du coup on peut se dire aussi en fait on va partager les richesses parce que c'est juste. Après sur la question du on met en place un revenu inconditionnel, les gens arrêtent de travailler, du coup on n'aura plus les moyens de financer un revenu inconditionnel. Dans une optique décroissante, à la limite c'est plutôt tant mieux, ça veut dire qu'on est tous d'accord pour se contenter de moins, donc on peut aussi baisser le montant du revenu inconditionnel, et c'est, à mon sens, on entame un cercle vertueux. Après, concrètement, comment est-ce que j'envisage le financement du revenu inconditionnel? Il y a plusieurs choses. D'une part, il y a une partie d'autofinancement. Donc, on part du principe que le revenu inconditionnel est déjà versé, au moins en partie, donc sous des formes conditionnelles la plupart du temps, à travers certaines prestations sociales, comme le RSA par exemple, comme les allocations familiales. Donc ce type de prestations, qui sont pour le RSA par exemple très stigmatisantes, qui me semblent injustes, pourraient être supprimées et remplacées avantageusement par un revenu inconditionnel. Donc tout ce qui est utilisé aujourd'hui pour financer le RSA pourrait financer un revenu inconditionnel. Même chose avec ce que j'appelais tout à l'heure la turbinature d'un, toutes les politiques de l'emploi. Donc toutes les politiques qui nous permettent de créer des emplois de n'importe quelle qualité, souvent de piètre qualité. On dépense énormément d'argent chaque année pour créer ces emplois. Mieux vaudra, à mon sens, financer un revenu inconditionnel et laisser les gens créer les activités qu'ils ont envie de créer. Je passe sur d'autres modes d'autofinancement. La question, par exemple, du statut d'intermittent. Est-ce qu'on a encore besoin d'un statut d'intermittent une fois qu'on a tous un revenu inconditionnel en poche? C'est une question que je pose. Après pour le reste, donc une fois qu'on a mis de côté l'autofinancement, il reste une partie quand même à financer, et donc pour moi, enfin je m'appuie essentiellement sur l'impôt. Donc c'est une discussion qu'on avait tout à l'heure avec Simon. Certains proposent par exemple des taxes écolo, des taxes Tobin ou Keynes sur les transactions boursières ou financières, un revenu maximum. Par exemple, pour financer un revenu inconditionnel, personnellement, je suis favorable à toutes ces mesures, mais pas pour financer un revenu inconditionnel. Donc, je pars du principe que ce serait absurde de financer un revenu inconditionnel en taxant les transactions financières, parce que le jour où il n'y a plus de transactions financières, c'est la crise. Et donc on serait amené à attendre, à espérer que tout le monde continue à spéculer pour pouvoir financer le revenu inconditionnel. Même chose avec les taxes écolo. On se dit, du coup, pourvu que tout le monde soit complètement inconséquent au niveau de sa consommation, pour qu'on puisse continuer à verser un revenu inconditionnel. Donc je suis pas favorable à ce mode de financement. Une autre option, donc c'est la création monétaire dont je parlais tout à l'heure avec Simon. Alors personnellement, je ne suis pas suffisamment penché sur cette question, mais certains auteurs le proposent. Moi, je pars du principe que se poser la question de la création monétaire, c'est mettre de côté la question du partage des richesses. Et c'est une question qui me semble être importante à poser dans notre société aujourd'hui. Et donc, du coup, je m'appuie plutôt sur l'impôt, un impôt sur l'ensemble des revenus. Donc, revenu du travail, revenu de l'emploi et revenu du capital. C'est notamment donc aussi taxe sur le patrimoine. Donc en gros, c'est ça mes modes de financement. Ça supposerait une augmentation des taux d'imposition, une augmentation aussi de la progressivité, jusqu'à une tranche à 100%, puisque par ailleurs, je suis favorable à un revenu maximum. Donc voilà en gros les pistes de financement qui sont proposées, sachant qu'il y a il y a autant de modalités de financement qu'il y a de mi-temps du revenu inconditionnel. Ouais. À peu près. Dans tous les bouquins qui existent sur le revenu inconditionnel, il y a toujours une partie sur le financement. Personnellement, du coup, j'ai écrit trois parties différentes que j'ai écrites à chaque fois sur le financement, déjà. Et puis, du coup, là, on a dirigé avec des collègues un dossier dans la revue Mouvement qui est paru au printemps 2013. Du coup, il y a plusieurs personnes qui traitent aussi de la question du financement, avec aussi notamment les impacts en termes de partage des richesses et de taux d'imposition, si ça vous intéresse. Et puis j'ai écrit aussi un article dans le Monde Diplo sur cette question-là qui doit être disponible en ligne. Dernier point, du coup, je passe la parole sur la question de la propriété, quelle place pour la propriété individuelle. En gros, pour moi, enfin, à mon sens, la question, enfin, le problème, c'est pas tant la propriété individuelle que la propriété lucrative. Savoir ce qu'on peut faire avec. Enfin, il y a la question du partage du patrimoine. Le fait qu'effectivement, en France, et encore plus au niveau mondial, parce que je crois que les chiffres que tu donnais, c'était au niveau mondial. En France, on a du coup le dernier décile qui a 50% du patrimoine français, privé. Donc ça c'est un partage complètement inégalitaire, donc il faut questionner ce partage là. Mais après la question surtout la propriété lucrative, donc dans quelle mesure on peut faire de l'argent simplement avec du patrimoine, du capital. Donc c'est ça qu'il faut contester. Donc ça passe notamment par une réappropriation des moyens de production, donc sous la forme de coopératives, etc. Et une fois qu'on a fait ça, à mon sens on a déjà fait une grosse partie du boulot. Donc, c'est très très bien.
Je vais répondre seulement à la première question des rapports de force qui me semble très importante pour dire que moi, si je me suis impliquée dans ce groupe de réflexion sur le post-capitalisme, c'est justement parce que pendant des années, je me suis impliquée dans pas mal de luttes et aussi dans des constructions de projets alternatifs, mais à assez petite échelle, quoi. Bon, je crois que c'était avec quand même 150 personnes, mais c'est reste quand même une petite échelle. Et en fait, il m'a semblé que ce qui manquait dans toutes les luttes auxquelles j'avais participé, c'est une perspective révolutionnaire offensive. C'est-à-dire que comme on manque cruellement de projets politiques partagés, de vision de vers quoi on veut aller, de qu'est-ce qu'on souhaiterait, qu'est-ce qui nous mettrait de la joie et de l'espoir comme projet politique futur, ça affaiblit beaucoup les luttes, je trouve. Et donc, moi, il me semble que ce travail de réflexion, mais aussi de débat, parce que moi, j'apprécie beaucoup là, d'être rassemblés et de réfléchir ensemble, en fait, sur ces questions, donc de ne pas arriver avec un modèle tout fait, clé en main, de dire, voilà, il faut faire ça, mais que ça soit aussi en débat et qu'il y ait une conscience collective de c'est nous qui déterminons en fait des conditions de comment on produit et comment on vit et tout ça, et qu'on a vraiment du pouvoir là-dessus, et ben pour moi ça peut vraiment augmenter la force qu'on a ensemble et du coup les possibilités de renverser les rapports de pouvoir très très injustes et très inégalitaires tels qu'ils existent aujourd'hui.
Gros chantier, hein. De toute façon, les mesures qui sont proposées là, c'est quand même des mesures révolutionnaires dans l'ensemble. Donc sans révolution, il ne se passera pas grand-chose. Et comment on obtient une révolution, on y réfléchit tous. alors moi, je vais répondre à plusieurs petits trucs. La question de l'argent. Puisque les questions d'argent, ça me fait rigoler. L'argent et le financement et tout ça, c'est quand même un faux problème. Il faut bien se rendre compte que l'argent c'est une marchandise, un objet, c'est quelque chose qui est produit avec des règles, hein, bien sûr, mais qui est quand même produit. Cette production, elle est maîtrisée par les banques centrales qui les délèguent aux banques locales, qui délèguent le pouvoir de création monétaire. Mais c'est quelque chose qu'on peut contrôler tout à fait. En tout cas, manquer d'argent, c'est un peu un non-sens, parce que si on manque d'argent, il suffit de le créer, quoi.
Donc, moi, pour moi, les questions de financement ne posent pas vraiment de problème. Si, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, si vous voulez un revenu garanti tout de suite demain, en fait, là, on est local. Et votre création monétaire, monnaie locale, c'est vous qui la contrôlerez, c'est vous qui la maîtriserez. Et vous verrez bien si vous créerez des milliards ou des milliers ou des centaines, vous verrez bien ce que ça donne. D'ailleurs, c'est un peu, ça me permet de rebondir sur la question du montant. Il faut bien voir que l'argent sert principalement dans une économie saine, hein, sans parler de ce qu'en font les capitalistes. Mais l'argent sert de monnaie d'unité de compte. Et c'est quelque chose qui va permettre d'organiser à grande échelle, notamment à l'échelle qu'on appelle nous anonyme, d'organiser les échanges entre les gens, échanges de travail et échanges de marchandises. Après, les termes de l'échange de travail et de marchandises entre les gens, qu'est-ce qui fait que ça va être plus ou moins pour certains ou pour d'autres, ça c'est des choses qui sont à discuter, débattre, à mon avis, décider collectivement. Mais l'argent n'y a pas grande mesure. Pour vous donner une idée, on pourrait très bien proposer un revenu inconditionnel demain à 10 centimes, comme on pourrait le poser à 100 000 euros par personne. Ça ne changerait pas grand-chose, parce que de toute façon, le système économique, au bout d'un moment, il s'adapte aux revenus des gens. Et si vous avez des revenus à 100 000 euros, vous verrez vos loyers grimper à 30 000 euros. Et puis, si vous avez des revenus à 10 centimes, et vos loyers ils seront à 2 centimes. Et l'argent, c'est comme ça que ça fonctionne. Ça ne coûte rien, ça ne vaut rien. Ce n'est qu'une unité de compte. Hein. C'est comme si vous vouliez, je ne sais pas, créer des kilomètres, vous voyez, ou des litres. Vous pouvez. C'est que l'unité de mesure, l'argent. Quand on réfléchit à l'économie et on essaye de développer des choses économiques, je pense qu'il vaut mieux ne même pas se poser ces questions d'argent. Les questions de richesse, de production et tout, elles se jouent bien ailleurs, elles se jouent sur des termes concrets, elles se jouent en termes de matériel, de matières premières, de temps de travail, d'information, de culture, de formation des gens et tout. C'est tout ça, c'est ce qui fait l'économie. L'argent ensuite ne doit servir qu'à favoriser et permettre des échanges et discuter des termes de l'échange politiquement. Quand on parle de, par exemple, rémunérer plus les travaux pénibles plutôt que les travaux pas pénibles, on est clairement dans la discussion, la politique de « Ah bah si tu travailles plus dans un boulot plus pénible, tu vas avoir le droit à plus en compensation. » C'est une forme de compensation. Mais c'est tout. Voilà, donc ça c'était pour l'argent. Sur la question initiative individuelle et collective que tu as posée, c'est vrai que le revenu inconditionnel, ça nous chagrine un peu que ce soit une mesure comme ça individuelle, puisqu'elle favoriserait comme ça, a priori, de l'émancipation individuelle et de la survie individuelle et peut-être même du travail individuel. En tout cas, c'est une mesure individuelle. Rien n'empêche ensuite les gens de s'organiser collectivement. C'est l'exemple des aborigènes, je le citais surtout pour ça. Si à un moment on veut s'organiser collectivement, de toute façon, il faudra le faire, hein, qu'on ait un revenu inconditionnel ou pas. C'est pas ça qui va nous permettre de nous organiser, c'est de nous organiser tout simplement. Il faut le faire. Sur du coup la question de l'État, c'est vrai que c'est un peu flippant de mettre aux mains de l'État cette question du revenu inconditionnel. En même temps, d'un côté c'est flippant parce qu'ensuite l'État aurait tout pouvoir sur ce revenu, et du coup si un jour on le met en place et puis que 2 ans plus tard on le supprime, on a tout perdu. D'un autre côté, moi je me dis qu'il ne faut pas non plus trop se leurrer. Si on arrive à mettre en place ce genre de mesure qui ferait beaucoup de mal aux capitalistes, c'est que l'État en a repris la main dessus. Donc l'État serait peut-être moins à craindre demain en cas d'imposition du revenu garanti. Pour moi, c'est qu'on a déjà remis la main sur l'État, donc à ce moment-là, il n'y a plus de raison de le craindre, puisque c'est nous qui le maîtrisons. Mais bon, voilà, c'est un peu... Ça, c'était la question de l'État. Et sur la question des rapports de force, je vais finir là-dessus. Dans notre groupe, on est principalement des militants. On s'est intéressé à l'économie après coup. Donc, c'est des questions qu'on a rencontrées dans nos luttes énormément, comme l'a dit Sophie, bah, c'est justement ces perspectives concrètes et tout, qui, on imagine que ça va donner de la force, ça va donner de la force à nos luttes, d'avoir des objectifs et toute la détermination. Mais pour revenir sur le revenu, non seulement ça se, les questions de changement, de transformation sociale, elles se jouent clairement au-delà du revenu inconditionnel. Et du coup, faut pas s'imaginer le revenu inconditionnel comme la solution à tous les problèmes. Par contre, le revenu inconditionnel, moi, me semble une revendication très intéressante en tant que militant, parce que c'est une revendication qui pose énormément de questions et des questions très importantes. Elle pose des grandes questions et puis elle porte aussi des valeurs qui me paraissent tout aussi fondamentales et importantes. Les valeurs, c'est principalement des questions de dignité, d'accès aux ressources de base pour que personne vive dans l'indigence ou des choses comme ça. Il y a une question aussi de reconnaissance sociale de tout type de travail qui est de dire bah, toute activité est potentiellement utile. Elle n'est pas forcément si elle était définie comme telle, en tout cas en plus définie comme telle dans le système actuel. Ça n'a pas trop de sens quand on voit comment... Bon bref, non, j'écoute. Et enfin, un truc important qu'amène cette revendication, c'est de vraiment bien déconnecter le revenu de l'emploi. Ça aussi, ça me paraît être fondamental. Donc même si sans un rapport de force réel, on n'obtiendrait jamais cette revendication, de proposer cette revendication, même si elle ne permettrait pas d'obtenir une société rêvée, de la proposer quand même, c'est poser des bonnes questions, c'est porter des bonnes valeurs, et du coup, moi, je les défense.
Sur l'histoire du rapport de force, comment est-ce qu'on fait pour faire face à la domination financière? Nous, ce qu'on dit alors chez les décroissants, enfin au mouvement des ouvriers de décroissance, on se dit le revenu inconditionnel. Enfin, il faut des belles revendications. Et le revenu inconditionnel, c'est une belle revendication, dans le sens où ça tranche avec les revendications qui nous semblent être des abdications, alors, de type du boulot pour tout le monde. Enfin, allons tous bosser dans des entreprises pour un patron, pour produire des trucs qui servent à rien, juste pour se consoler d'avoir trop bossé ou ce genre de choses. Plus de pouvoir d'achat pour tout le monde. Enfin, ce type de revendications qui finalement sont aujourd'hui portées par la gauche et qui mènent à rien d'autre chose que, simplement essayer d'humaniser un peu un système qui est complètement aberrant. Donc du coup, le revenu inconditionnel, ça me semble trancher avec ce type de revendications parce qu'on propose vraiment autre chose, un autre imaginaire qui va avec. Donc c'est ce type de belles revendications qui, à notre sens, peut être porteur d'une mobilisation. En fait, c'est un peu notre. Enfin, c'est pour ça qu'on parle de revenu inconditionnel.
Vos jours se lèvent, enfin, nouveau est un grand mot. Ils se ressemblent tellement tous qu'on ne fait plus gaffe aux alentours. Les gens se bousculent, se marchent dessus en fête, mais ne se regardent plus. Chacun reste dans sa tête, assis à l'arrêt de bus. Je vois cet homme, le regard vide, comme chaque matin. Il part au chantier, mais n'en a plus envie. Ça fait 30 ans que ça dure, le même train-train. Mais il doit bien nourrir sa petite famille, même s'il sent sa vie mourir. Lui qui, dans sa jeunesse, s'est battu pour la France. Et comme retour de pièce, comme beaucoup n'a eu droit qu'à son ingratitude. Il perd un bon avenir pour ses gosses, dans un pays qui s'efforce à mettre des bâtons dans les roues à ceux qui n'ont pas la bonne face. Puis, un bruit de volet qui s'ouvre, une vieille dame à sa fenêtre, qui regarde le monde tel un tableau dans lequel elle ne veut plus être. Où les époques passent comme des saisons. La sienne est morte et chaque soir elle s'endort avec l'idée de ne plus se réveiller. Elle se sent seule en bas, les gens de sa vie sont partis. Et quand elle parle d'elle, c'est tout passé, s'excuse presque d'être en vie. N'attend que le dimanche pour aller choisir des fleurs afin d'aller au cimetière se recueillir auprès de son mari défunt. Puis un rire de petite fille vient ensoleiller la rue. Elle court dans tous les sens, la joie de vivre la vie dans son état pur. Qui s'émerveille devant la rosée du matin, pleine de regards. Maman et maman crient, viens ici et donne-moi la main. La tête baissée, elle obéit d'un air un peu déçu. Puis la relève, voyant la vieille dame à la fenêtre au-dessus. Échange de regards bref, mais signifiant, étincelant. Les yeux de la vieille dame qui murmurait doucement. Cueille ta vie avant qu'elle soit emportée par le vent. Cueille ta vie avant qu'elle soit abîmée par le temps. Cueille ta vie, tiens-la fort et ne l'enferme pas dans le rang. Ne la laisse pas s'envoler loin de tes rêves, cueille-la dès maintenant. Cueille ta vie avant qu'elle soit emportée par le vent. Cueille ta vie avant qu'elle soit abîmée par le temps. Cueille ta vie, tiens-la fort et ne l'enferme pas dans le rang. Ne la laisse pas s'envoler. Les loin des rêves, cueille-la dès maintenant. Un peu plus loin, ce jeune garçon, assis sur des cartons, entouré de bouteilles vides, qui n'attend plus rien que l'hécatombe. Victime d'une vie qu'il n'a plus voulu prendre en main, prisonnier du bitume, il s'est construit son monde très loin, un monde intérieur riche, où lui lui seul est souverain. Royaume imaginaire qui ne laisse plus rentrer la cruauté des humains. Il n'a plus la notion du temps, enfermé dans sa tête. L'enfant lui pleure à chaque instant où la tempête s'arrête. Puis une femme sort chez elle, une lunette de soleil qui cache des larmes et l'hématome d'un amour passionnel. Fruit d'une union, virant au déboire, à double tranchant, devenant coupant le soir. Lorsqu'il commence à boire, elle a perdu l'homme qu'elle aimait. Volée par l'alcool, attendant toujours son retour et repoussant toujours l'ultimatum, culpabilisant. Car seul et lésé, l'amour rend aveugle, surtout quand la vue donne envie de se crever les yeux. Un homme style à cinquantaine, sort sa voiture, costard, cravate, tête droite, avance avec fière allure. Mais dans son ombre, on peut lire celle d'un homme triste et seul, pas d'amis, juste des gens intéressés par son fric, il les a tous perdus. Sa famille et ses proches, faute d'un égo démesuré et trop d'aigreur dans les reproches. Et aujourd'hui, a fini par comprendre dans son malheur qu'en étant seul, même sous l'argent du monde, n'a plus de valeur. Il est jamais trop tard pour cueillir sa vie. Rattraper le retard, tout commence aujourd'hui. Sortir la tête de sa bulle, même si ce monde nous dépasse. Ouvrir les yeux et se libérer de nos habitudes de glace. Il est jamais trop tard pour changer le courant de l'esclave. Passer maître de sa vie pour ne plus vivre mourant. On s'est plongé dans l'inconnu, souvent réparateur. On choisit son chemin et paraît que le bonheur fait peur. Cueille ta vie avant qu'elle soit emportée par le vent. Cueille ta vie avant qu'elle soit abîmée par le temps. Cueille ta vie, tiens-la fort et ne l'enferme pas dans le rang. Ne la laisse pas s'envoler loin de tes rêves, cueille-la dès maintenant. Cueille ta vie avant qu'elle soit emportée par le vent. Cueille ta vie avant qu'elle soit abîmée par le temps. Cueille ta vie, tiens-la fort et ne l'enferme pas dans le rang. Ne la laisse pas s'envoler loin de tes rêves, cueille-la dès maintenant.
Oui, vous ne devez pas ignorer, je pense, le travail de Bernard Friot sur le salaire à vie. Je voulais savoir, parce que le réseau salarial dont il fait partie se positionne par rapport au revenu inconditionnel d'existence. Et je voulais savoir comment vous vous positionnez par rapport à lui, et en rappelant rapidement ce qu'est le salaire à vie. Merci.
Non, la réalité, je pense que ça se transforme. Et moi, je ne peux pas imaginer, par contre, de vivre toute ma vie dans un monde qui n'aurait pas de perspective révolutionnaire. Je m'en fous de gagner des petits trucs et puis de tenir jusqu'au bout de la vie parce que j'ai trois pansements. Donc, je pense qu'effectivement, le monde il est géré mondialement et vécu mondialement, que s'il n'y a pas une remise en cause fondamentale de comment on fonctionne, on va juste avoir globalement et majoritairement des plumes sur toute la planète, et on va finir par détruire complètement même la planète et la perspective de survie des autres humains et des autres espèces. Du coup, je pense que c'est fondamental d'avoir une revendication grande et de tout bouleverser. Et moi, j'en reviens toujours à la même question. Je pense que l'intelligence, elle est plutôt du côté de la résistance, qu'on a inventé tous les systèmes, les possibles et les alternatives. Et j'aimerais bien que, l'année prochaine, la réflexion, ça soit... Et comment on fait basculer, comment on oblige les dominants à nous rendre le monde. Et puisqu'on a des propositions concrètes, sympathiques et non violentes, comment on les oblige à nous écouter et à accepter là où on en est. Hein. Enfin, moi, c'est ce qui m'intéresse.
Ok, une autre réaction.
Enfin, moi, c'est une question, une réaction, mais puisqu'on est en train de parler de l'État et de sa place. Je ne sais pas comment ça fonctionnait, mais est-ce que les systèmes communistes anciens, enfin type RDA, avaient un système de ce type-là? C'est-à-dire, je ne sais pas, est-ce qu'ils avaient un revenu pour tout le monde, ou est-ce qu'ils offraient du travail rémunéré à tout le monde? Il me semble que c'est plutôt le deuxième système. Mais enfin, j'aimerais voir si vous avez étudié ça.
Sur le salaire à vie, donc effectivement c'est une proposition de Bernard Friot, donc je l'avais fini très vite, alors du coup ça me met, je suis sans doute pas la meilleure personne pour présenter le salaire à vie. Il s'agit donc de verser un salaire unique à tous les majeurs. Comment dire ? Ouais, verser un salaire unique à tous les majeurs. Donc il n'y a pas de deuxième chèque avec le salaire à vie, alors que pour le revenu inconditionnel, on a le revenu inconditionnel qui est le revenu de base, et ensuite on a la possibilité de compléter avec une autre source de revenus. Donc là, dans le salaire à vie, salaire unique, sachant qu'il y a plusieurs niveaux de rémunération dans le cadre du salaire à vie. Et du coup, c'est ça le... Enfin, je le dis très très vite, hein, je ne sais pas si Simon va compléter. Là, moi, les soucis que j'ai par rapport au salaire à vie... Ouais.
quand même préciser que c'est pas par l'impôt qu'a financé le salaire à vie, mais par les cotisations sur le salaire, ce qui est une énorme différence en termes de pouvoir d'État, parce que l'État, lui, gère l'impôt, tandis que les cotisations peuvent très bien être gérées par des organisations ouvrières. Ça me semble fondamental.
Du coup, moi, le souci que j'ai avec le salaire à vie, donc c'est pas la question de la cotisation, parce que effectivement, je pense que ça serait une bonne chose, mais je vois pas comment ça peut être applicable au revenu inconditionnel. Le souci que j'ai avec le salaire à vie, c'est que, alors d'une part, il y a des. Enfin, après, c'est logique, c'est une proposition qui est en cours d'élaboration. Il y a des zones floues, notamment sur la question des tâches pénibles. Donc, en fait, moi, je milite pour le revenu inconditionnel, notamment parce que je pense que le revenu inconditionnel offre une solution sur la gestion des tâches pénibles, ce dont parlait Sophie, du coup meilleure rémunération des tâches pénibles, sachant que je parle aussi du principe que cette meilleure rémunération des tâches pénibles, ce serait un échec. Si on est obligé de mieux rémunérer les tâches pénibles, ça veut dire qu'en amont, on n'a pas réussi à les partager de manière plus équitable, mais déjà, ça permet d'avoir cette possibilité-là, donc avoir un deuxième chèque pour ceux qui acceptent de réaliser des tâches pénibles, donc ce qu'on n'a pas dans le salaire à vie, donc du coup, j'attends les propositions du réseau salariat sur le mode de gestion des tâches pénibles. Et ensuite, l'autre problème que j'ai, c'est une question de justice. Donc dans le salaire à vie, il y a 4 niveaux de rémunération qui sont proposés, 4 niveaux de salaire qui dépendent de la qualification. Alors la qualification, c'est pas la certification, il ne s'agit pas d'avoir un niveau de diplôme, mais en gros, alors, pour le dire vite, ce serait un peu appliquer le système de la fonction publique, donc sur la base de concours qui viennent qualifier les personnes. À l'ensemble de la société. Donc du coup, on a un concours de catégorie alors 1, 2, 3, 4, on dit, où on a un concours de catégorie 1 de fait, dès la majorité. Et du coup, on a le salaire à vie de base, et on peut progresser pour, en force, alors déjà, à force d'avancer en âge, et puis aussi en passant des concours supplémentaires, on peut gagner davantage en salaire, parce qu'on gagne en qualification. Le souci que j'ai avec ça, c'est que je ne vois pas en quoi avoir une qualification supplémentaire, ça donne droit à une rémunération supplémentaire. Je ne vois pas pourquoi ce serait juste. Faire des activités pénibles et être payé davantage, ça me semble juste. Avoir davantage de qualifications et être payé davantage, je ne vois pas en quoi c'est juste. D'autant que cette qualification est là pour évaluer un potentiel productif, si je reprends les mots de Bernard Frouillet. Un potentiel productif, ce qui fait qu'on n'est même pas sûr que ce potentiel productif va effectivement être utilisé. Et donc simplement, j'ai ce potentiel productif, par exemple si je me dis, en étant généreux, voilà, j'ai une qualification 4 directe, j'ai ce potentiel productif, je peux faire tout à fait autre chose, mais j'aurai quand même un salaire plus élevé que tous les autres. Je vois pas en quoi c'est juste. Du coup, moi je préfère du coup le revenu inconditionnel avec tous ses défauts, parce que ça me semble être plus juste en termes de critères de justice économique. Bon. L'autre dernier point de divergence que j'ai avec Bernard Frilou, de manière générale du réseau salariat, c'est la question du montant. Donc moi je suis chez les croissants, je crois que le montant de base pour le salaire à vie c'est 1500 euros. Je sais pas si tu me confirmes ou sinon. 2002 le salaire de base.
Non, 1005 dans la dernière.
Ouais, 5 dans la dernière. Alors ça évolue. Je crois que Bernard baisse progressivement et moi j'augmente progressivement. Tôt ou tard on devrait se retrouver. Mais du coup 1500 euros, se dire que dans une société on ne peut pas vivre avec moins de 1500 euros, bah se dire que juste on garde notre société complètement insoutenable écologiquement, socialement, etc. Et ça me semble un peu dommage. Mais encore une fois, lui baisse, moi j'augmente. Tôt ou tard, enfin c'est pas une question qui est totalement insurmontable.
De toute façon, on fait ce qu'on veut.
Dire un petit mot sur la revendication et à quel point elle va être difficile à atteindre. Pour vous donner un ordre de grandeur, ce sera peut-être plus parlant de parler concret. Mettre en place un revenu inconditionnel ou ce genre de niveau de revendication, ça correspond à mettre en place un corps fonctionnarial, par exemple. Ce qui s'est passé en France quand on a mis un corps fonctionnarial, toute la fonction publique en place avec un système de financement par cotisation sociale, c'est quelque chose, donc vous pouvez voir, ça a été fait, c'est possible de le faire, c'est pas de la revendication qui est complètement utopique. Mais c'est quand même de la revendication costaud, ça s'est fait à travers des grands mouvements de grève et puis beaucoup de travail préparatoire et tout, ça n'a pas été amené comme ça rapidement. Mais voilà, c'est de l'ordre des choses qui sont costauds, qui sont des grandes transformations sociales, mais qui se font et qui se font sans heurte non plus fondamentaux. Quand on a mis en place la fonction publique en France, les capitalistes s'en sont ont maugréé, continuent d'ailleurs à maugréer et à lutter contre. Mais en attendant, ça existe, ça fonctionne, et pour l'instant, c'est là. Et vous avez tous les corps fonctionnariaux qui sont payés par création monétaire, par cotisation sociale, et ça pose pas de problème. D'ailleurs, c'est un problème, ça pose pas de problème aux capitalistes. Mais en tout cas, voilà, ça, c'est des choses qu'il est possible de mettre en place.
Je reviens sur le réseau salarial et du coup sur ce que disait tout à l'heure Simon. Une des critiques du revenu inconditionnel par le réseau salarial Bernard Friot, c'est qu'effectivement, donc il part du principe que le revenu inconditionnel considère les individus comme des êtres de besoin, uniquement comme des consommateurs. C'est vrai pour certaines propositions du revenu inconditionnel, notamment pour ceux qui parlent de revenus d'existence et qui disent à partir du moment où on existe, voilà, on a des besoins et donc du coup on doit pouvoir répondre à ces besoins. Moi dans mon optique, le revenu inconditionnel il est versé au nom de la contribution de tous à la création de richesses d'une manière ou d'une autre. Donc je pars du principe que en gros on a droit à un revenu inconditionnel parce qu'on est tous travailleurs. Donc je construis pas les individus simplement comme des êtres de besoin, mais aussi comme des producteurs. Et en tant que producteur, tout le monde travaille, tout le monde a droit à une partie des richesses produites. Voilà, c'est aussi une divergence que j'ai avec, enfin sur l'analyse que fait Bernard Friot du revenu inconditionnel.
Ça va bien.
Gonna wanna go on a spread your wings, yeah. Turn your teeth to the sky. I said, honey, nothing's ever gonna let you down. Cause I just wouldn't let it do it. No, 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 no. Hush! Baby, 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 baby. No, 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 you cry.
La présentation en disant qu'on était un pays suffisamment riche pour pouvoir se permettre de réfléchir à un revenu pour tous. Alors qu'est-ce que ça veut dire être assez riche? De quelle richesse est-ce qu'on parle? Est-ce que c'est parce qu'on a colonisé des pays, exploité des tas de continents qu'on est maintenant assez riche pour vivre comme ça? Et du coup, le pendant de ça, c'est est-ce qu'il y aurait des pays pas assez riches pour pouvoir se le permettre?
Ouais, je me pose une question, c'était sur la notion de pénibilité du travail. J'ai vu récemment, il y a un sondage d'un syndicat de professeurs où il disait que les profs étaient de plus en plus fatigués et qu'ils considéraient, du coup on peut considérer ce métier comme pénible au niveau psychologique. Je ne sais pas s'il y a des profs ici qui peuvent témoigner de ça. Mais là, les questions de pénibilité, elles ont été abordées dans les gouvernements, par les gouvernements de manière récente. Donc c'est des notions qui commencent à rentrer dans le système politique tel qu'il est organisé actuellement, et sauf qu'elles ne sont pas définies. Quoi. Ces notions de pénibilité, moi, même si je me lève, des fois je suis encore fatigué. Donc ça peut rester relatif, et du coup, voilà, je voulais savoir s'il y avait une définition un peu, ou si c'était quelque chose qui pouvait s'autoréguler, du fait d'un type de métier que personne ne veut faire, et on s'aperçoit que du coup c'est parce qu'il est pénible, ou est-ce qu'il y a une définition a priori de la pénibilité du travail?
C'est éminemment important ce que vous faites, et du coup ça nourrit. Mais on fait quoi demain? Il y a aussi la question de l'organisation collective, et là on est, je pense, essentiellement des convaincus. A priori, hein, physiquement, je me dis qu'on est essentiellement des convaincus, et peut-être que je me trompe. Comment est-ce que, du coup, il y a un certain nombre de discours un peu extrêmes auxquels j'adhère, mais qui du coup peuvent être, puis des attitudes aussi qui moi me choquent pas, mais qui peuvent choquer d'autres personnes. Et comment du coup on fait comment est-ce qu'on élargit notre petit cercle et puis comment stratégiquement aussi, quelle stratégie on met en place aussi pour avancer pas à pas, le fameux pas de côté. Voilà.
Rejoignez-nous.
Du coup dans l'ordre. Sur la question, oui, riche, pas assez riche. Je crois pas avoir dit on est suffisamment riche pour mettre en place un revenu inconditionnel. Je pense avoir dit on est suffisamment riche pour se passer de croissance. Et donc du coup je pars du principe qu'aujourd'hui on est dans une société de surproduction, de surconsommation, enfin, on est riche à l'excès, donc du coup on a carrément la marge pour réduire la voilure. Après, est-ce qu'il faut être suffisamment riche pour mettre en place un revenu inconditionnel? À mon sens, du coup je dirais plutôt qu'on est une société suffisamment marchandisée pour avoir besoin de mettre en place un revenu inconditionnel, mais je ne suis pas sûr que cette option soit pertinente pour toutes les sociétés. Du coup, Simon parlait tout à l'heure des aborigènes en Australie, donner un revenu inconditionnel à des gens qui ne sont pas dans une société de marché, ça me semble être les jeter dans une société de marché alors qu'ils n'en ont pas forcément besoin. Tant qu'on a encore des solidarités de proximité qui existent et qui permettent de se passer de solutions marchandes, limite, autant les utiliser, mais pas forcément mettre en place un revenu inconditionnel. C'est pour ça que sur la question de la mise en œuvre mondiale d'un revenu inconditionnel, sur le principe, sur la question de la justice, ça me semble bon, effectivement, il faudrait pouvoir partager les richesses au niveau mondial. Après, sur la question de la pertinence de la mesure, je ne pense pas que ce soit une bonne idée si on veut éviter d'avoir une marchandisation de l'ensemble de la planète, de l'ensemble de la population de la planète. Donc ouais, c'est pas une question de riche pas riche, c'est juste une question de est-ce que c'est pertinent, est-ce qu'il y a vraiment le besoin, est-ce qu'on est tous dans des sociétés tellement malades de la marchandise qu'on est tous obligés de passer par le remède qui est le revenu inconditionnel. J'espère que tout le monde n'en est pas encore là. Sur la question de la pénibilité, on peut trouver, je pense, des critères objectifs qui permettent de déterminer la pénibilité, en tout cas certaines formes de pénibilité. Après, à mon sens, la pénibilité, elle relève surtout des conditions dans lesquelles sont réalisées les tâches. Alors personnellement, j'ai fait, avant d'être enseignant, j'ai bossé dans la manutention, j'ai fait des tâches de manutention, que que je trouvais assez, enfin que je trouvais pas agréable, ça m'a jamais fait marrer, mais je le faisais volontiers parce que c'était dans un cadre coopératif, et notamment j'avais totalement la maîtrise de l'organisation de mon travail. Et si j'avais fait ces mêmes tâches de manutention dans un tout autre cadre, par exemple chez Carrefour ou ailleurs, je pense que ça m'aurait été très très vite insupportable et particulièrement pénible. Mais à partir du moment où on a la maîtrise de l'organisation, je pense qu'on peut accepter davantage de pénibilité, enfin en fait plus volontiers. Donc c'est pas tant la pénibilité des tâches que le cadre dans lequel on réalise, et puis surtout le temps qu'on y consacre. Donc moi, quand je faisais des tâches de manutention, je travaillais 2 jours par semaine. L'objectif, c'était de travailler 1 jour et demi par semaine. Et finalement, donc, ça passe assez vite. On peut plus facilement accepter ces tâches, surtout donc, encore une fois, quand on le fait dans un cadre coopératif, sans lien hiérarchique, etc. Je le dis vite. Que faire qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ou demain? Donc globalement, enfin, je crois que c'est ce que disait Simon, en gros, bon, il faut continuer à militer, dans tous les cas. Alors, le revenu inconditionnel passera peut-être par une révolution, mais on n'est jamais à l'abri d'un malentendu. Hein. On peut aussi espérer qu'un jour, le Parti Socialiste, par exemple, se dise le revenu inconditionnel, c'est pas si mal, sur un malentendu, et se rend compte plus tard de son erreur. Donc continuer à militer, hein, se dire que voilà, par opportunisme politique, peut-être que quelqu'un alors de la trempe de Dominique de Villepin, mais de gauche, de centre-gauche, de centre, pourrait adhérer à un revenu inconditionnel de gauche, histoire de grappiller quelques voix, comme vous pouvez imaginer ça, donc continuer à militer pour ça, pour faire connaître l'idée autant que possible aussi, et donc se dire qu'effectivement, voilà, c'est une belle revendication qui mérite une mobilisation. Et après, il y a tout ce qui est faire à côté. Alors du coup, Simon parlait d'autres formes d'organisation économique. Là, je reparle des coopératives intégrales. Qui peuvent prendre la forme de sociétés coopératives d'intérêt collectif, par exemple, ou plus informelles, qui consistent à se poser collectivement et démocratiquement toutes les questions économiques de base. Qu'est-ce qu'on produit, pourquoi on produit, dans quelles conditions on produit, à destination de qui on produit, etc. Comment on va être répartie la production. Donc, se poser ces questions-là dans un cadre de démocratie délibérative, donc en prenant en compte l'ensemble des intérêts divergents au sein de la société. Donc, ce type d'initiatives, c'est des initiatives qui peuvent être réalisées au niveau local, donc par quelques personnes, et déjà, ça permet de questionner radicalement la société actuelle. Et puis, par ailleurs, pour revenir sur ces histoires de revenus inconditionnels, effectivement, Simon en parlait, les expérimentations, ça me semble être une bonne piste. Nous, c'est le constat auquel on est arrivé au sein du collectif Pour, donc un collectif de militants de gauche pour le revenu inconditionnel. On a regardé notamment comment avait été mis en place le RMI, et on s'est rendu compte qu'avant le RMI, il y a des collectivités locales qui ont mis en place des systèmes de revenus minimum garantis. Donc pas exactement des revenus inconditionnels, parce que c'était sous condition de ressources, mais c'était versé sans contrepartie. Notamment la ville de Besançon, par exemple, la ville de Nîmes, avant l'existence du RMI, il y avait ce type de prestation qui était mise en œuvre. Et on s'est rendu compte que c'est aussi ces expérimentations qui ont permis d'interpeller les pouvoirs publics en disant bah, il y a clairement des failles dans le système de protection sociale. Là, ce qu'on constate avec le revenu inconditionnel, c'est que, bon, évidemment, il y a toujours ces failles dans le système de protection sociale, notamment le côté stigmatisant de la protection sociale pour les bénéficiaires du RSA, par exemple. Mais donc, on constate qu'il y a des failles, qu'il y a un taux de pauvreté qui augmente. Et on constate aussi que, dans le débat sur le revenu inconditionnel, en gros, ce débat est pourri par des questions techniques et des craintes qui me semblent totalement irrationnelles, donc sur l'idée que les gens ne voudront rien faire, ou le revenu inconditionnel sera bu ou pire, etc. Du coup, voilà, on essaye et on voit ce que ça donne. Et donc, du coup, comme nous, à Tours, donc on a cherché pendant la milité, bon, pas suffisamment longtemps, mais pour mettre en place des expérimentations, on était en contact avec pas mal de mairies qui étaient d'accord pour nous suivre. Et puis, bon, finalement, il y a eu des élections, vous savez comment ça marche. Il y a eu des élections, il y a eu une crise économique. Du coup, les mairies se sont désengagées, mais on a régulièrement des contacts avec des groupes de citoyens qui voudraient mettre en place des expérimentations. Donc ça semble être une bonne manière pour déjà donc relancer le débat sur le revenu inconditionnel, montrer que finalement le revenu inconditionnel ça peut sans doute avoir un impact social positif. Et puis donc vraiment avoir un gros éclairage sur cette question-là, sachant qu'il y a déjà eu l'année dernière l'initiative citoyenne européenne donc sur le revenu de base, qui a permis déjà sensibiliser une bonne partie, enfin une partie de la population sur ces questions de revenus inconditionnels. Donc des expérimentations supplémentaires, ça permettrait sans doute de développer encore la connaissance pour nos concitoyens de ce concept.
C'est grand pour des milliers d'enfants. Il était habité jadis par nos grands-pères qui le tenaient eux-mêmes de leurs grands-parents. La la la, la la la, la la la. Où est-il ce jardin où nous aurions pu naître? Où nous aurions pu vivre insouciants et nus? Où est cette maison toutes portes ouvertes que je cherche encore et que je ne trouve plus? La la la, la la la.